Monsieur Croche avait une tête sèche et brève, des gestes visiblement entraînés à soutenir des discussions métaphysiques. Son allure générale donnait l'impression d'un couteau neuf. Il parlait très bas, ne riait jamais. Parfois, il soulignait sa conversation par un muet sourire qui commençait par le nez et ridait toute sa figure comme une eau calme dans laquelle on jette un caillou. C'était long et insupportable. Tout de suite, il sollicita ma curiosité par une vision particulière de la musique. Il parlait d'une partition d'orchestre comme d'un tableau, sans presque jamais employer de mots techniques, mais des mots inhabituels, d'une élégance mate et un peu usée, qui semblait avoir le son des vieilles médailles. Je me souviens du parallèle qu'il fit entre l'orchestre de Beethoven, représenté pour lui par une formule blanc et noir, donnant par conséquent la gamme exquise des gris, et celui de Wagner, une espèce de mastic multicolore, étendue presque uniformément, et dans laquelle il me disait ne plus pouvoir distinguer le son d'un violon de celui d'un trombone. Comme son insupportable sourire se manifestait particulièrement au moment où il parlait de musique, je m'avisai tout à coup de lui demander sa profession. Il me répondit d'une voix qui tuait toute tentative de critique, « anti-dilettante ». Et continua sur un ton monotone et exaspéré, « Avez-vous remarqué l'hostilité d'un public de salle de concert ? Avez-vous contemplé ces faces grises d'ennui, d'indifférence ou même de stupidité ? Jamais elles ne font partie des purs drames qui se jouent à travers le conflit symphonique où s'entrevoit la possibilité d'atteindre au fait de l'édifice sonore et d'y respirer une atmosphère de beauté complète. Ces gens, monsieur, ont toujours l'air d'être des invités plus ou moins bien élevés. Ils subissent patiemment l'ennui de leur emploi. Et s'ils ne s'en vont pas, c'est qu'il faut qu'on les voie à la sortie. Sans cela, pourquoi seraient-ils venus ? Avouez qu'il y a de quoi avoir à jamais l'horreur de la musique. » Comme j'arguais d'avoir assisté et même participé à des enthousiasmes très recommandables, il répondit « Vous êtes plein d'erreurs. Et si vous manifestiez tant d'enthousiasme, c'est avec la secrète pensée qu'un jour, on vous rendrait le même honneur. Sachez donc bien qu'une véridique impression de beauté ne pourrait avoir d'autres effets que le silence. » Enfin, voyons, quand vous assistez à cette féerie quotidienne qu'est la mort du soleil, avez-vous jamais eu la pensée d'applaudir ? Vous m'avouerez que c'est pourtant d'un développement un peu plus imprévu que toutes vos petites histoires sonores. J'étais trop intéressé et le laissai continuer après un long silence pendant lequel il parut ne vivre que par la fumée de son cigare, dont curieusement il regardait monter la spirale bleue, semblant y contempler de curieuses déformations, peut-être d'audacieux systèmes. Son silence interloquait et effrayait un peu. Il reprit « La musique est un total de forces éparses. On en fait une chanson spéculative. J'aime mieux les quelques notes de la flûte d'un berger égyptien. Il collabore au paysage et entend des harmonies ignorées de vos traités. Les musiciens n'écoutent que la musique écrite par des mains adroites, jamais celle qui est inscrite dans la nature. Voir le jour se lever est plus utile que d'entendre la symphonie pastorale. À quoi bon votre art, presque incompréhensible ? Ne devriez-vous pas en supprimer les complications parasites, qu'il assimile pour l'ingéniosité à une serrure de coffre-fort ? Il faut chercher la discipline dans la liberté et non dans les formules d'une philosophie devenue caduque et bonne pour les faibles. N'écoutez les conseils de personne, sinon du vent qui passe. Et nous raconte l'histoire du monde. »